Oui, bonjour à tous et merci aux organisateurs d'avoir organisé cette discussion aujourd'hui et puis de m'avoir contacté pour intervenir sur le sujet de l'OMS. Contrairement à mon collègue, le professeur Flückiger, je n'ai pas de présentation PowerPoint. J'utiliserai, si je peux, le partage d'écran juste pour vous montrer. Le site de l'OMS pour illustrer un petit peu mes propos. Alors, ce que je veux vous présenter ici autour de cette question de l'usage du droit souple par l'OMS dans le cadre de la pandémie, c'est d'abord rapidement dans une introduction, hein, je vais vous parler du rôle de l'OMS et de ses compétences normatives. C'est assez important de bien comprendre que l'OMS a un rôle normatif important. Et puis, je vous présenterai les activités de l'OMS dans le cadre de la lutte contre la pandémie depuis janvier 2020. Et ensuite, je discuterai un petit peu de la nature normative de ces activités de l'OMS depuis le mois de janvier. Donc, l'OMS a été créée en 1948 en tant qu'agence spécialisée des Nations Unies en charge des questions de santé. Et le but de l'organisation est fixé dans la constitution de l'OMS. C'est un but très large puisqu'il s'agit d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, la santé étant elle-même définie de façon très large comme l'absence, non, comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et non comme l'absence de maladie et d'infirmité. Donc, premier élément, un rôle très large de l'OMS qui se voit confier des fonctions multiples, nature administrative, politique, scientifique et normative. Alors, la lutte contre les maladies infectieuses, c'est une activité centrale de l'OMS pour des raisons historiques. La lutte contre les épidémies est historiquement un sujet qui a rassemblé les États depuis le 19e siècle. Donc, les premiers efforts de coopération entre les États autour de ce thème vont débuter au 19e siècle avec l'organisation de conférences, la négociation de conventions sanitaires et la mise en place d'institutions sanitaires dont le rôle, qu'on retrouvera hein, transféré à l'OMS, dont le rôle est celui de rassembler des informations, transmettre ces informations aux États, développer aussi sur la base des connaissances des recommandations sur les stratégies dans le domaine de la santé publique à adopter, tout en respectant la souveraineté des États. Ça, c'est très important. C'est précisé dès le départ dans les actes constitutifs de ces institutions. Elles ne doivent pas intervenir dans les affaires internes de l'État. Donc, dès le 19e siècle, on comprend hein, l'intérêt d'une coopération internationale afin de protéger la santé des populations. Et aussi, c'est le deuxième but de cette coopération, c'est un but central, il faut protéger les échanges commerciaux et les intérêts économiques de chacun. L'OMS a donc des prédécesseurs qui sont, vous avez l'Office international d'hygiène publique créé en 1907, le comité d'hygiène de la SDN. Vous avez aussi un comité qui a été mis en place pendant la Deuxième Guerre mondiale pour veiller aux questions de santé publique qui allaient se poser au lendemain ou à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les compétences de l'OMS vont cependant plus loin hein, que ces compétences qui ont été attribuées aux autres institutions d'hygiène. Elles vont plus loin, notamment pour ce qui est de la dimension normative. La constitution de l'OMS va donner la possibilité à l'organisation de développer des conventions et des traités, mais aussi des instruments tout à fait particuliers qui s'appellent les règlements, qui vont être adoptés à la majorité simple par l'Assemblée mondiale de la santé. Et ils sont particuliers parce qu'ils vont devenir contraignants dès leur adoption, finalement, pour tous les États membres, sauf si les États activement refusent d'être liés par ces règlements. Alors, c'est une technique très intéressante qui a ses limites parce que ces règlements ne peuvent être adoptés que dans des domaines très particuliers. Vous avez quatre domaines très précis. Le premier, c'est la lutte contre les maladies infectieuses. Vous avez un règlement sur la nature des maladies, un règlement sur les standards ou un règlement qui regroupe les standards sur les méthodes de diagnostic des maladies. Et puis, vous pouvez avoir des règlements qui vont être adoptés sur les conditions de mise sur le marché, la publicité, la désignation des produits biologiques et pharmaceutiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'OMS, finalement, a très peu utilisé ces pouvoirs-là. L'OMS a adopté uniquement une convention, hein, qui est la Convention 4 sur la lutte contre le tabac, adoptée en 2003, et très peu de règlements. Vous avez des règlements très techniques, hein, notamment sur la nomenclature des maladies, qui a été adoptée en 1948, hein, sur la classification internationale des maladies, et puis le règlement sanitaire international, dont la première version a été adoptée en 1951. Elle a été révisée plusieurs fois pour aboutir à ce règlement sanitaire international adopté en 2005 et qui est applicable aujourd'hui. Donc, à côté de une capacité normative très importante, hein, l'OMS peut adopter des actes contraignants. Ceci dit, dans la pratique, elle ne le fait pas vraiment. Elle préfère adopter des instruments non contraignants, alors sous la forme de recommandations. C'est aussi prévu par la Constitution. Vous avez de nombreux textes, hein, qui ont été adoptés ainsi. Par exemple, vous avez un code international de commercialisation des substituts du lait maternel adopté en 81, un code de pratique mondiale pour le recrutement international des personnels de santé adopté en 2010. Mais vous avez aussi beaucoup de standards techniques, de listes, de règles de bonne conduite, de directives qui ont été adoptées sous cette forme de soft law. Maintenant, que s'est-il passé depuis janvier 2020? Et je vais vous montrer là. Vous avez la page de l'OMS, ou une des pages de l'OMS, qui est consacrée au coronavirus, à la lutte contre le coronavirus. Alors, ce qui est important de noter, c'est que depuis janvier 2020, l'OMS exerce pleinement la responsabilité qui lui a été reconnue et qui est affirmée dans ce règlement de 2005, qui est une responsabilité historique d'intervenir dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Donc, elle a un rôle en matière d'alerte en cas d'épidémie et un rôle pour l'action face aux événements. Et l'OMS est intervenue de façon assez multiple. Et ce qu'il y a d'assez surprenant, c'est qu'elle a aussi utilisé largement son site web pour donner accès et donner de la publicité à toutes ces activités. Et c'est assez novateur. Si vous regardez un peu sur les sites des différentes organisations internationales, on a rarement finalement une espèce de méli-mélo d'activités. La page que je vous montre ici, c'est une page qui est intervenue un peu plus tard. On a un effort de la part de l'OMS de classer ces activités. L'OMS ici vous présente ses activités en les classant dans 6 groupes, hein, à commencer par, alors c'est un effort récent, hein, à commencer par un premier groupe qui va toucher aux activités d'information. Alors ici, vous avez accès aux différentes conférences de presse, aux tweets utilisés par l'OMS pour transférer l'information générale sur la pandémie, que ce soit le nombre de cas, le nombre de décès par pays. Vous trouvez aussi dans ce groupe la déclaration par laquelle l'OMS, le 13 mars 2020, a identifié la situation de pandémie. Vous avez un deuxième groupe qui touche la science. Alors, tout est en anglais, hein, il n'y a pas d'accès dans d'autres langues à ces informations-là. Donc, la science, ici, dans ce groupe d'activités, on classe finalement toutes les informations scientifiques, les annonces des efforts de l'OMS pour la mise en place du Solidarity Trail, Je pense que vous en avez tous entendu parler, hein, où l'OMS a essayé de coordonner les efforts des différents États pour tester des médicaments. Vous avez aussi l'annonce des efforts pour le développement des vaccins, l'annonce des avancées sur les médicaments, sur les vaccins, mais aussi certaines positions scientifiques. Hein, que pense l'OMS, par exemple, de l'usage de passeports immunologiques? Ça, c'est des informations que vous trouvez ici, classées dans ce groupe science. Ensuite, vous avez un groupe d'activités regroupé sous leadership, qui va grouper et offrir un accès à des documents assez différents. Alors, vous avez les documents ou les décisions prises en application du règlement sanitaire international, hein, dont je vous ai parlé un instant, comme la déclaration d'urgence sanitaire de portée internationale, hein, qui a été rendue publique le 30 janvier 2020. Accessoirement, l'adoption de recommandations temporaires, mais il faut chercher un petit peu. Vous avez aussi des déclarations multiples qui reflètent le rôle de coordinateur de l'OMS dans le cadre de cette pandémie, notamment les déclarations de l'OMS par lesquelles le directeur général va demander aux États de se préparer, d'agir, d'être solidaire, mais aussi demander aux compagnies privées, à l'industrie privée, de participer à l'effort global pour ce qui est de la recherche, de la production, de la distribution de médicaments ou de vaccins. Un quatrième groupe d'activités, c'est les activités groupées sous l'idée de conseil. Ici, vous avez des documents qui vont apporter des conseils pratiques aux États. Vous avez des standards qui vont être proposés. Vous avez des directives qui vous expliquent comment au mieux prendre en charge les patients, utiliser les masques, utiliser les matériels de protection, comment organiser les réunions de masse, protéger la santé mentale, etc., etc. Donc, des documents assez techniques qui vont être utilisés ou qui sont offerts ou qui sont proposés aux États pour que les États développent, s'appuient sur ces recommandations pour développer leur propre stratégie nationale. Cinquième groupe d'activités dans ce qu'ils appellent réponse. Donc là, vous avez aussi à nouveau des activités de plusieurs sortes. Un premier type d'activité qui est présenté ici, c'est l'annonce des contrôles qui vont être mis en place, des contrôles sur le travail de l'OMS. Donc l'OMS, et ça c'est assez classique hein, dans le cadre des urgences sanitaires de portée internationale, l'OMS prévoit de mettre en place des comités indépendants qui vont analyser et critiquer les activités de l'OMS pendant cette période.
La musique.
Il y a quelqu'un d'autre qui parle en même temps, il faudrait. Merci. Donc, ce que je disais, c'est que dans ces activités réponse, l'OMS classe des activités où on va préparer une analyse critique des activités de l'OMS depuis janvier 2020. Un autre comité va être aussi chargé de faire des propositions pour la révision du règlement sanitaire international. Et puis, vous avez aussi des activités qui vont toucher le développement de stratégies, le développement de plans pour assurer le développement de technologies, pour assurer la recherche, le financement et la distribution de ces technologies. Ici, on pense directement au vaccin. Dernier type d'activité, resourcing, des activités en lien avec la recherche de financement, que ce soit pour financer la recherche, le personnel de santé, l'accès à du matériel de prévention, mais aussi l'accès à de la nourriture ou de l'aide humanitaire dans les pays qui en ont besoin. Alors, je vous ai détaillé un petit peu ces différents types d'activités pour vous montrer un petit peu le caractère chaotique de ces différentes pages, de ces différentes informations. Alors, cette présentation des activités de l'OMS par l'OMS est, à mon sens, assez troublante, bon, non seulement parce qu'elle peut sembler un peu chaotique et peu organisée, mais elle est troublante, à mon sens, parce qu'on présente toutes ces activités au même niveau, alors qu'il existe des vraies obligations juridiques à la charge des États. L'OMS, ici, on a l'impression qu'elle présente une vraie volonté de rester dans un cadre très souple, un cadre coopératif dans lequel finalement chacun va avoir un rôle bien précis. L'OMS va conseiller et puis les États vont décider eux, de la stratégie qu'ils vont adopter. Alors, il est vrai que les États restent compétents hein, pour ce qui est de décider au niveau national de leur politique de santé publique. Mais ceci dit, les États se sont aussi engagés à travailler ensemble pour lutter contre les épidémies. Et ils ont pris des engagements juridiques à travers ce règlement sanitaire international qui contient certaines obligations précises. Vous avez, par exemple, une obligation pour les États de notifier à l'OMS tout événement qui pourrait être détecté sur son territoire et qui pourrait constituer une urgence de santé publique de portée internationale. Ça, c'est une vraie obligation. Alors, qu'en est-il maintenant des recommandations temporaires? Ça, c'est intéressant. L'OMS, à partir du moment où une urgence sanitaire de portée internationale a été déclarée, l'OMS va pouvoir adopter ce qu'on appelle des recommandations temporaires. Ces recommandations temporaires, elles vont contenir des recommandations assez larges, hein, qui vont, par exemple, ça peut être des rappels des États de la nécessité de coopérer ensemble avec l'OMS, rappel du principe de solidarité internationale, encouragement à la protection du personnel de santé, à la communication avec la communauté nationale, à la recherche, au maintien de services de santé essentiels. Ça peut être précisé de façon assez large. Mais ce qu'il peut y avoir aussi dans ces recommandations, c'est des recommandations qui vont toucher des mesures sanitaires en lien avec le but hein, de ce RSI, qui est de protéger à la fois la santé et le commerce international. Ces mesures sanitaires vont être destinées à éviter la propagation de la maladie au-delà des frontières. Et là, par exemple, dès janvier 2020, l'OMS a recommandé aux États de ne pas bloquer, de ne pas fermer les frontières. Et ça, c'est une recommandation qu'on trouve de manière très régulière en cas d'urgence sanitaire de portée internationale. Et finalement, ces recommandations-là, elles sont contraignantes, hein, tout simplement parce que, en application d'un autre article, qui est l'article 43 sur les mesures sanitaires nationales, supplémentaires, les États, dès qu'ils décident d'aller au-delà de ce que recommande l'OMS, eh bien, ils doivent en informer l'OMS et ils doivent surtout présenter les raisons scientifiques sur lesquelles ils s'appuient pour expliquer qu'ils ont absolument besoin de ne pas respecter les recommandations faites par l'OMS et de fermer leurs frontières, par exemple. Alors, en conclusion, hein, parce que je vois que j'ai presque épuisé le temps qui m'était accordé, pour résumer d'abord ce que je viens d'exposer. Ce qu'on constate, c'est que l'OMS va exercer ses fonctions dans le cadre de la pandémie en recourant à des instruments de soft law, hein, développer des conseils, rassembler des informations, préciser les standards, mais aussi en présentant toutes ces activités comme relevant du droit souple. Ce qui semble importer pour l'OMS ici, c'est la bonne volonté des États qui vont être guidés, encouragés à prendre les bonnes décisions et adopter les bonnes stratégies. Et en faisant ça, l'OMS semble renoncer finalement à mentionner la nature contraignante de certaines obligations à la charge des États dans le cadre de la lutte contre les maladies infectieuses, préférant ici une approche de soft law. Alors, il y aurait beaucoup à dire hein, sur les raisons pour lesquelles l'OMS adopte cette stratégie. Il y a des raisons de nature historique, politique, juridique, sociologique. Il y a aussi une raison très claire en lien directement avec les faiblesses du règlement sanitaire international qui donne peu de compétences à l'OMS pour contrôler les États et surtout pour les contraindre à respecter leurs obligations. Donc, je ne peux pas m'étendre sur ces raisons et j'aimerais juste terminer avec mon avis sur l'efficacité de cette stratégie de la soft law dans le domaine de la lutte contre les pandémies. Et c'est un avis assez négatif. Ce que je pense, et je ne suis pas la seule, hein, il y a de nombreuses voix notamment qui demandent une révision du règlement sanitaire international. Ce que je pense, c'est qu'il est absolument nécessaire de recourir aux instruments juridiques contraignants, ici de renforcer le RSI. Il s'agirait finalement d'affirmer les obligations des États pour ce qui est de la préparation nationale à la détection des maladies et à la réponse aux épidémies. Les États n'étaient pas suffisamment préparés. Pour ce qui est aussi de la coopération et de la solidarité avec la communauté internationale dans son entier, on sait très bien que de nombreux États dans le monde n'ont pas la capacité économique et financière aujourd'hui pour se préparer correctement à la lutte contre les maladies transmissibles. Ils ont besoin d'un soutien technique et financier des États les plus avancés. Hein. Et puis, il s'agirait aussi d'affirmer la nécessité pour les États de respecter les mesures sanitaires générales. À mon sens, il est par conséquent aussi nécessaire de renforcer la capacité de l'OMS à contrôler les États membres et à les contraindre à remplir leurs obligations. Mais ça impliquerait aussi un changement de tactique assez important au sein de l'OMS, un changement de tactique qui implique aussi un changement de philosophie de travail. C'est une question assez complexe et qui n'impliquerait pas cependant l'abandon du droit souple qui a toute sa place dans ce domaine particulier de la santé publique. Voilà, et j'en ai fini pour ma présentation. Je vous remercie.